Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle de l'association Femmes d'Himalaya et présidente collective du Festisol de Grenoble et Blandine de l'association Bouquins sans frontières. Anne d'Amnesty International, vous êtes ici pour parler du Festival des Solidarités qui se déroule du 17 novembre au 6 décembre. Bonjour, pouvez-vous nous présenter le festival ?
Oui, bonjour. Alors, au niveau international, ce festival, effectivement, démarre le 17 novembre. Mais nous, on est en avance parce qu'on démarre dès aujourd'hui, le 30 octobre, et jusqu'au 2 décembre avec plus de 23 événements, enfin, avec 23 événements au total, dont la journée d'inauguration qui aura lieu, elle, le 18 novembre, le samedi 18 novembre, de 14h à 22h à la Maison des habitants Tesserre-Malherbe, 110 avenue Jean Perrault à Grenoble. Ce que je peux rajouter, c'est que Amnesty International est membre fondateur du Festival des Solidarités qui se déroule partout en France et dans 12 pays d'Afrique francophone depuis 26 ans. C'est la 26e session cette année. Et que plus qu'un festival des solidarités, c'est aussi un projet de société basé sur la solidarité, qui dit en particulier que la solidarité a à la fois une dimension locale et internationale qui n'est pas dissociable. La défense des droits humains, sont des valeurs à la fois universelles, indivisible et interdépendante, et que la solidarité n'a de sens que si elle est globale. Et construire la paix implique de reconnaître le droit égal de chaque être humain à vivre dignement dans un environnement préservé. Donc ça va assez loin.
Alors comment s'organise le festival au niveau local ?
Alors au niveau local, c'est un collectif d'associations de solidarité qui œuvre soit sur le terrain local grenoblois, soit au niveau national, soit au niveau international, qui se regroupent et qui, autour d'un thème préconisé par le Festisol national, décident de proposer des événements qui peuvent être des conférences, des événements de théâtre, des événements culturels, des événements de conférences, festif tout simplement, une soirée sénégalaise pour cette année par exemple, voilà. Et donc l'objectif, c'est d'aider chacun à prendre conscience que la solidarité, ça commence à son niveau à soi, par des petits gestes, des petites actions, et que ça va en grandissant dans toutes les dimensions de notre vie personnelle.
Et donc à quel public est destiné ce festival ?
Le festival s'adresse aussi bien à des enfants avec des collaborations avec des écoles sur, par exemple, l'exposition « Je vais à l'école » qui montre les conditions de scolarité d'enfants à travers le monde, qu'à des adultes avec des films, avec des conférences, avec on espère avoir des étudiants qui vont venir nous rejoindre dans ces différents événements. On espère avoir du public senior qui est tout autant concerné, des mamans et des papas qui travaillent. Donc ça s'adresse à tout public intéressé pour connaître et débattre et s'ouvrir à la solidarité.
Y a-t-il des thématiques principales qui se dégagent des conférences et des ateliers ?
Alors pour cette année, le Festisol national a choisi de travailler sur la souveraineté alimentaire et nous avons plus de la moitié des événements du Festisol, de la programmation du Festisol de Grenoble autour de la souveraineté alimentaire, oui, dont un événement proposé par Bouquins sans frontières. Je vais passer la parole à Blandine pour en parler.
Oui, donc cette année au niveau Festisol, on aura le 20 novembre de 18h à 21h, en fait une fresque alimentaire. Donc si vous êtes intéressé, il y a une préinscription qui doit se faire auprès de notre association, donc Bouquins sans frontières, et vous participerez donc à cet événement. Et puis aussi d'autres sur la souveraineté alimentaire, ça sera des lectures à haute voix qui auront lieu le 23 novembre de 18h à 19h sur le thème aussi écrivain et paysan, et le 22 novembre au titre du pôle de solidarité internationale, donc avec d'autres associations qui appartiennent au pôle, on aura des ateliers d'Iris Folding qui aura pour thème l'alimentation. Donc ça sera effectivement des différents aliments qui vont être à confectionner par des pliages.
Ok. Et donc, vos événements, est-ce qu'ils sont en lien avec le concept de votre association qui est les livres ?
Oui, en fait, nous avons été... Alors, ça fait 2 ans qu'on fait partie de Festisol. Et en fait, ce sont des activités qui sont liées à notre activité de Bouquins sans frontières, bon, que je vais présenter peut-être par la suite. Et c'est pour ça que c'est par la récupération. En fait, l'Iris Folding est fait à partir de récupération de feuilles de livres qui devraient aller au rebut. Et ça nous permet comme ça d'être assez éco-responsables et d'utiliser différents livres.
Selon vous tous autour de la table, j'ai une question un peu ouverte. Qu'est-ce que la solidarité internationale ?
Pour moi, la solidarité, c'est, qu'elle soit internationale ou nationale, c'est simplement une attention et un regard sur l'autre, l'envie de donner et de partager quelque chose qui peut être un simple instant, un sourire, apporter une baguette de pain quand on voit que son voisin a des difficultés pour bouger, ou aller alors carrément beaucoup plus loin dans l'investissement. Mais ça passe déjà par du quotidien, par des gestes simples que nous avons un peu trop perdus dans nos sociétés qui sont de plus en plus individualistes et consommatrices.
Oui, je compléterais en disant que la sensibilisation au fait que être citoyen, c'est être aussi solidaire. Et que, effectivement, sur une association comme Amnesty International, on a pas mal de plaidoyers pour la solidarité, dont un des thèmes importants et d'actualité, par exemple, c'est la défense des droits fondamentaux des réfugiés et migrants. Les droits fondamentaux, le droit à la vie, parce qu'il y en a qui sont tués à nos frontières, le droit à un hébergement, le droit à la santé, ce qui est aussi en discussion actuellement ou qui va venir en discussion, le droit à la formation, le droit à la scolarité, qui est refusé aussi pour un certain nombre de personnes. Et donc tout ce plaidoyer pour la solidarité. On essaye aussi de le faire par des nouveaux moyens de réseautage pour attirer les jeunes, parce que y a beaucoup de jeunes qui sont pas investis dans ce qu'on appelle entre guillemets la politique, les partis politiques, mais en fait on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont investis dans des collectifs d'accueil, par exemple, de personnes sans domicile, quel que soit leur statut, quelles que soient leurs conditions. Et bon, ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent, mais plus sur des choses concrètes. Et je pense que c'est ça ce qui est important. Ce que disait Isabelle, c'est pas la solidarité un grand mot qu'on emploie dans des débats, mais c'est ce qu'on fait au quotidien, chacun à notre niveau. Et c'est l'histoire des petites gouttes d'eau. Avec des tas de gouttes d'eau, on fait des océans.
Et effectivement, c'est important de faire par des petites gouttes d'eau. Et nous, par rapport à Bouquins sans frontières, c'est une solidarité au niveau de la culture, de telle façon que tous puissent lire, parce que c'est pas évident dans certains certains milieux. Donc on voit, on aide certaines familles qui ne peuvent pas aller dans les bibliothèques. Et en fait, ils peuvent venir chercher des bouquins, puisqu'en fait, on a des prix, donc eux, c'est gratuit. Et par contre, c'est des prix très solidaires à 50 centimes ou 1 euro.
Quelles actions sont faites pour préserver ces droits et libertés fondamentaux ?
C'est à quel niveau là ? Au niveau d'Amnesty International, par exemple ? Donc, au niveau d'Amnesty, c'est essentiellement du plaidoyer hein, donc, qu'on fait auprès de nos députés. Là, je parle au niveau local. Hein, on va voir nos députés, nos sénateurs, lorsqu'il y a des projets de loi qui menacent certains droits fondamentaux. Pour essayer de faire passer des amendements. Ça peut se faire aussi directement au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale par nos instances nationales. Et après, au niveau international, puisque donc, historiquement, le siège d'Amnesty International est à Londres, a été créé par un avocat londonien pour la défense des prisonniers d'opinion. Ce qu'on appelait les prisonniers oubliés qui croupissent dans les prisons et qu'on n'oublie pas, pour lesquels on écrit et on se bat. Et donc, au niveau international, on a un statut consultatif dans un certain nombre d'organismes comme l'ONU. Donc on agit aussi directement à l'ONU, à la Cour pénale internationale, au niveau de la Cour pénale internationale, pour que soient jugés les responsables de violations graves des droits humains. Voilà ce qu'on fait. Et ici, à Grenoble, on organise souvent des stands en fait, de rue pour certaines actions spécifiques. Et puis, on organise des ciné-débats, des conférences, comme ce qu'on va faire aussi pendant le Festisol.
Il y a des conférences en particulier que vous voulez mettre
Dans le cadre du Festisol, donc là, nous, on ne s'est pas mis sur la thématique directement sur l'alimentation. Bon, c'est aussi un débat et c'est aussi des choses qu'on défend par ailleurs. Mais là, cette année, on a axé d'une part sur l'Ukraine. Qu'on n'oublie pas, parce que ça continue. On en parle moins en ce moment à cause d'autres actualités internationales graves. Mais donc en Ukraine, ça continue. Et donc là, on a une exposition qui s'appelle « Justice pour l'Ukraine », en fait, qui sont 15 planches de dessinateurs du monde entier qui se sont unis autour d'un projet qui s'appelle « Cartooning for Peace », donc « Dessiner pour la paix ». Et donc ces planches sont extraites d'un livre qui s'intitule « Fichez-nous la paix » sur une initiative de Plantu. Et donc on exposera à la Maison des Habitants Tesserre-Malherbe du jour de l'inauguration du 18 novembre au 2 décembre. Cette exposition. Ensuite, juste avant, le 14 novembre, on aura un ciné-débat au Méliès, justement sur l'Ukraine, et que j'ai intitulé « En fuyant l'Ukraine et le fracas de la guerre ». C'est un très beau film fait par un réalisateur polonais qui s'appelle en français Pierre Feuille Pistolet. En fait, le titre anglais, c'est In the Rear View, qui veut dire dans le rétro. Et en fait, c'est beaucoup plus, le titre anglais est beaucoup plus parlant parce que effectivement, dès les premiers jours de l'invasion russe, il est parti avec un van, une grosse voiture, en Ukraine pour aller chercher des gens et les amener en sécurité en Pologne. Et donc, le film, c'est ça. On est dans la voiture, ça démarre dans la voiture, on part pour le Donbass. Après, on va aussi dans le nord de l'Ukraine, bah, dans les endroits qui étaient attaqués par les troupes russes. Et donc, c'est l'évacuation de tous ces civils, ce qui racontent en fait dans la voiture ce qu'ils ont vécu. Et puis, voilà, donc c'est un très beau film et qui permet d'aborder un certain nombre de sujets après, justement sur la situation des civils dans les guerres qui sont de plus en plus victimes. Alors autrefois, c'était les armées. Maintenant, c'est les civils qui sont essentiellement les victimes dans les guerres. Et donc, toutes les atteintes aux droits humanitaires, la situation de la justice internationale, on parlera de ça après. Donc, avec l'association Humacop Amel France, qui fait partie aussi du collectif Festisol, avec qui on organise ce ciné-débat, et la participation de l'association Ukraine Grenoble Isère, qui nous racontera justement comment ça se passe, ces évacuations, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Bon, l'accueil qui a été fait à Grenoble, parce qu'on a reçu un certain nombre de personnes, même si en France, ce n'est pas le pays qui a le plus accueilli, hein, c'est surtout l'Allemagne et la Pologne. Plus d'un million de personnes d'Ukrainiens et Ukrainiennes surtout, puisque c'était surtout femmes, enfants et personnes âgées, les hommes restant pour se battre. Voilà, donc ce qui pose des problèmes aussi psychologiques pour les familles. Enfin voilà, donc ça c'est pour l'Ukraine. Ensuite, on sera plus autour des femmes. Bon, il faut se rappeler aussi que le 25 novembre, ça sera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le coup d'envoi normalement, c'est donc du 25 novembre et pendant 16 jours, qui se termine le 10 décembre, le jour de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Sur laquelle nous nous basons Amnesty International pour nos plaidoyers. Et donc on aura le 27 novembre un ciné-débat sur la compétence universelle à partir d'un film espagnol sur les atteintes aux droits, les violations des droits sous le franquisme, en particulier les disparitions qui sont plus connues à la limite en Amérique latine et un peu moins en Espagne, et en particulier des enfants qui ont été adoptés dans des conditions peu réglementaires, je dirais. Et donc, c'est un peu l'inverse que ce qu'on connaît plus, les disparitions en Amérique latine, en particulier en Argentine et au Chili. Et ça s'est passé aussi en Espagne. Et là, ils ont fait appel, puisqu'en Espagne, ils ne pouvaient pas obtenir réparation, à une avocate en Argentine qui, au nom de la compétence universelle, justement le droit de prendre, de demander justice pour des violations commises dans un autre pays, ont pu agir et obtenir un certain nombre de choses pour ces personnes. Et puis, on aura aussi le 30 novembre, à la Maison des associations, à 18h, une conférence débat sur ce que j'ai appelé un continuum de violence, excision, mariage forcé, violence conjugale, donc dans le cadre des violences faites aux femmes, avec un focus sur la Guinée, qui est le deuxième pays au monde où sont pratiquées les excisions. Et Amnesty International a publié en 2022 un rapport sur les violences faites aux femmes en Guinée. Et en plus, à Grenoble, c'est au niveau des demandeurs d'asile, ce sont les Guinéens et Guinéennes qui sont le plus nombreux. En particulier cette année, on a eu près de 400 personnes originaires de Guinée qui sont arrivées en Isère, ce qui est assez énorme. La communauté est très importante dans l'agglomération grenobloise. Et un certain nombre de femmes ont subi toutes ces violences en Guinée. Mais bon, pas que, ça existe aussi chez nous. Et donc, on aura plusieurs associations qui interviendront. Une qui s'appelle Les Orchidées Rouges, l'ADA, justement, l'accueil des demandeurs d'asile, qui traite des demandes d'asile pour les fillettes menacées d'excision. Également, Voix de Femmes sur les mariages forcés. Et puis, l'association Solidarité arrêté Femmes Milena, qui intervient ici à Grenoble autour des femmes victimes de violences. Et je pense qu'il y aura aussi d'autres personnes concernées sur le sujet.
Non, j'ai rien à ajouter. Je trouve que le programme est passionnant et qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent.
Un programme très riche et varié, en effet. Ouais. Pour revenir à l'accès à la culture et aux livres, quelles actions arrivez-vous à mettre en place pour donner le plus envie de lire à toutes les personnes qui ne sont pas forcément sensibles.
Oui, ben c'est déjà d'ouvrir à plus de public possible, donc de façon intergénérationnelle, et aussi à faire des prix très bas, de telle façon qu'ils puissent avoir cette culture. De plus, on fait aussi, au niveau de solidarité, des projets internationaux, parce qu'on va créer des mini-bibliothèques avec les pays, soit le Sénégal, Burkina Faso, donc d'Afrique, ou aussi il y a au Népal, au Maroc, et puis là aussi au Japon. On fait des dons à ce moment-là de livres pour créer ces mini-bibliothèques. En Afrique, on est en liaison et aussi avec les autres pays, avec des lycées, des collèges, de telle façon que ça complète cette culture nécessaire donc, aux différents élèves. Donc ça sera des livres aussi, soit en anglais, soit aussi en français.
Il y a une sélection des textes dans ces bibliothèques en particulier.
En fait, c'est une vraie librairie. On vous donne rendez-vous si vous avez la curiosité de venir donc au pôle de solidarité internationale 5 rue Federico Garcia Lorca. Donc, c'est situé derrière la maison de la culture, vers la maison des habitants Tesser Malherbe. Et là, c'est une librairie avec tout genre de livres que vous trouvez généralement en librairie. Sachant qu'on vit de dons des particuliers ou de certaines institutions. Il y avait même l'université qui nous a donné des livres scolaires et qu'on peut mettre à ce moment-là dans nos projets à l'international. Et aussi, on va pouvoir distribuer ces différents livres. Donc à peu près, ça fait un volume de 7000 livres qu'on reçoit par an et on en donne à peu près 4000. Et aussi, on a des projets de façon avec des associations locales. On donne des livres aussi à Médecins du Monde, par exemple, à d'autres associations. Voilà.
Je pense qu'on peut s'accorder une petite pause musicale. Un titre de Luan B, qui est « Résidente au ciel ».
Voile one bay en barre comme le bateau. Le voile levé sur mon talon. Où la patiente est longtemps. Mon flot sur un plateau d'argent. So dis-moi les fiers, ça pas trop. Tommy Rouva ou Moquet. Chapa tongo, chali tango, misé à chapa. Rappeuse échappée, libre et légère. Où la crie quoi? Mité gain para, pareil bana. N'a rien que le saut, il aime pas l'ouana. Et s'il aime pas, appareil bana. Artisana ma partie sondée. À moi tisane, zèque mon tissandier. Nous ça pas quoi, toute bande sentier. Tout ça rien que pour votre santé. Enchanté, rap game ça mon chantier. Me fais pas rien que chanter. Chabon, fier, dans haute salle incendiée. Ça il est sans vie avec mon pot charbonnière. Ou rot bonheur, ou propulsé. Ou raloter, il sent succès. Ou prend possible, d'au moule les faibles quête pas. Ou les faibles à oum ça supplicier. Chabon, fier. Laisse-moi, laisse-moi, rôde mon latitude. Laisse-moi, 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 rôde mon latitude. Laisse-moi, 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 rôde mon latitude. Laisse-moi, 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 rôde mon latitude. Zot l'a pas l'habitude. Métissa, jazz, hip-hop, mal oeil à mes tues. Admirer l'écriture, m'y remplir le critère. N'a point fioriture, à moi le feu sort cratère. Le monde débrouille le temps qu'on reste à terre. Si on méprise, alors on reste pas terre. À moi craque à terre, fait lève, foot pas de battre la terre. Et claque. ok, clac. MC Luan B, meilleure cérémonie ou la jamais vie. Modèle hégémonique, oui, nous a détruit. Partager monnaie et brûler l'élite, même si ou Genpi. Continuer casse, le rein passe-passe. Si viens casse-casse, si t'intègre classe ou viens tête basse, ou laisse un place pour me carcasse. Si basse, laisse un moins. Chapon fier. Laisse-moi. Ok. Laisse-moi. Prends mon latitude.
Laisse-moi.
Prends mon latitude.
Laisse-moi.
Prends mon latitude.
Laisse-moi.
God, mon latitude.
Nous sommes bien de retour sur Radio Campus Grenoble 90.8. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Femmes d'Himalaya nous propose pour ce festival des solidarités ?
Alors Femmes d'Himalaya, déjà Femmes d'Himalaya, c'est situé en Himalaya, vous pouvez vous en douter, mais en Himalaya indien. Et en partenariat avec une association, une autre association qui s'appelle Alliance Népal, qui elle aide des enfants au Népal, alors que nous, nous aidons des femmes en Himalaya indien, nous proposons un film qui s'appelle Yungwa, l'équilibre rompu. C'est un metteur en scène, producteur Ladaki, qui suite à un cloud bursting, alors je ne sais pas comment traduire exactement en français, mais en gros, c'est un torrent de boue, des torrents de boue, qui sont arrivés en 2010 sur l'Ée, alors que c'était une ville qui est un désert, qui ne connaît absolument pas de ce genre d'événement. Il s'est dit, mais le climat est en train de se dérégler, en train de changer, et j'ai envie de montrer au monde quel impact cela a. Et c'est d'autant plus choquant pour les Ladaki, qui sont très fervents bouddhistes, hein, bouddhistes tibétains, et que dans le bouddhisme tibétain, l'écologie, le respect de la nature est quelque chose d'extrêmement important. Et on a choisi ce film parce que parler de souveraineté alimentaire, c'est une chose, mais quand on n'a plus d'eau dans un village et qu'on est obligé de quitter son village parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a pas de souveraineté alimentaire. Donc la bataille de l'eau dans l'Himalaya où je vais commence, j'y vais tous les ans depuis 2010 et c'est un très très gros problème. Il y a des années où l'année dernière, il n'y avait pas d'eau par exemple, ils avaient cultivé la moitié des champs et cette année, il y a eu trop d'eau. Il y a eu une mousson exceptionnelle en Inde qui a détruit beaucoup de routes, qui nous a pris nous sous la neige et tout ça. Et tous ces dérèglements climatiques, on avait envie d'en parler et de montrer quels impacts ils pouvaient avoir non seulement chez nous, okay, on est à 40 degrés en été à Grenoble, mais aussi dans des régions qui sont très très dépendantes de la météo, des glaciers, de l'eau des glaciers. Donc on propose cet événement-là, on propose 3 diffusions du film en présence de la réalisatrice, la deuxième réalisatrice, Christiane Mordelais, le 23 novembre, le matin à 9h30 à la maison des habitants Tessermalherbe. Et on aura 2 projections à 14h30 et à 19h30 à l'amphithéâtre de l'Office du tourisme. Donc ça, c'est pour la partie asiatique.
Et la partie écologique qui, dans une autre émission la semaine dernière, on disait que le thème de l'eau sera un gros débat et un gros sujet au niveau des transitions écologiques actuellement.
J'allais dire des guerres, en tout cas au moins des conflits. Et ça a déjà commencé. Hein. On sait que en Syrie, il y a une énorme sécheresse. Et c'est pas complètement indépendant de ce qui s'est passé ensuite et qui continue aujourd'hui, dont on parle moins aussi, mais ça continue toujours les conflits en Syrie.
Oui, ça va être un gros sujet géopolitique encore.
Oui, c'est pour ça un petit peu. Je ne veux pas rentrer dans des politiques, mais c'est pour ça que la Chine vise. Est très, 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 très s'intéresser par l'Himalaya parce que c'est la réserve d'eau de la région et que c'est fondamental pour toute la région d'avoir accès à l'eau des plateaux, l'eau des glaciers.
Et donc Femmes d'Himalaya, elle aide surtout les nonnes, si j'ai bien compris.
Pas que, ça a commencé à partir des nonnes. L'idée de départ, c'était d'aider les nonnes, c'est-à-dire des sœurs bouddhistes. Et puis, en fait, à force d'aller là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait les nonnes qui avaient un problème de pauvreté, effectivement, mais que ça concernait toutes les femmes seules. Ça concerne toutes les femmes qui n'ont pas de mari. Je ne dis pas que les femmes qui ont un mari sont très riches. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Mais dans une région où la femme reste dépendante d'un homme pour toutes ses décisions et financièrement, être veuve, être célibataire ou être nonne, c'est passer en dernier roue du carrosse parce que l'homme, il n'a pas assez d'argent pour s'occuper de tout le monde. En gros, c'est ça, quoi. Donc nous, notre credo, c'est, j'arrête pas de dire, on est des esclavagistes, on les met derrière des machines à coudre et des machines à tisser des tapis, à leur demande, hein, c'est pas moi qui arrive avec des demandes et leur dit, vous devriez faire ça, c'est elles qui disent, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. On offre le matériel, on offre les formations et on répond, on les accompagne dans la mise en place de leur projet et ça marche très très bien.
Comment vous les accompagnez? Comment, par quel biais, par quel moyen?
Alors déjà, en faisant des collectes de fonds sur la France, en vendant de l'artisanat qui arrive d'Inde. Et puis sur place, eh ben, en allant à Manali, en achetant des machines à coudre, en les trimballant en 4x4, en les distribuant, en leur disant, bah voilà, je vous donne de l'argent pour acheter pour payer le formateur, pour payer le... Je disais, donne un poisson à un homme, il mangera une fois, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est vraiment, je sais plus si c'est Lao Tzu ou Confucius, mais enfin, c'est un sage chinois qui a dit ça. Elles sont autonomes, et ça, c'est très, très important pour moi. C'est vraiment la leçon de... Je crois que c'est Lao Tzu qui disait « Donne un poisson à un homme, il mangera une fois, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. » C'est vraiment... Je ne sais plus si c'est Lao Tzu ou Confucius, mais enfin, c'est un sage chinois qui a dit ça. Et c'est vraiment, pour moi, le credo de l'association. C'est les amener à se prendre leur destinée en main. Et cette année, pour la première fois, il y a le premier groupe de femmes que nous avons aidé en 2017 qui nous a dit « On n'a plus besoin de vous. On a pu payer des vacances au Népal et aller voir des lieux saints. » Que demander de plus? Ils n'ont plus besoin de nous, bah, tant mieux. Hein.
C'est très concret.
Exactement, c'est extrêmement concret. Si vous voulez voir toutes les actions qu'on fait... Et on a fait un camp médical cette année avec des opticiennes qui sont venues avec nous pour fabriquer des lunettes en France et les redistribuer. On a eu 400 consultations, 280 patients en 7 jours. Et on a fabriqué que 60 paires de lunettes. C'est très bien, ça veut dire qu'ils ont une bonne vue. Et on a distribué beaucoup de lunettes de soleil. Et pour tout savoir ce qu'on fait de façon concrète, c'est www, il y en a que trois, hein, c'est trois. Ça, femmesdhimalaya.fr. Voilà.
Et ben merci beaucoup.
Et sinon, ben, on voulait parler aussi des actions, de tout ce qui a trait à l'Amérique du Sud. Je vais laisser repasser la parole à Anne, peut-être, qui connaît mieux le programme.
J'ai mon anti-sèche sous les yeux. Donc on est un peu sur tous les continents, parce qu'il y a aussi des associations africaines qui seront là. Il y a donc l'Asie, et puis il y a l'Amérique latine traditionnellement. Donc l'an dernier, justement, en rapport avec... la souveraineté alimentaire, on avait parlé pas mal de l'accaparement des terres dans un certain nombre de pays d'Amérique latine et de la défense des droits des communautés autochtones qui défendent justement cette terre qui est la terre mère avec tout ce que ça représente pour les communautés et qui sont la base, quoi, hein, parce que si on n'a plus une terre sur laquelle on peut, avec laquelle on peut se nourrir, eh bien on mourra tous. Donc là, cette année, il y a plusieurs choses prévues avec les associations d'Amérique latine. Il y a un ciné-débat le 9 novembre, Malajunta, qui est sur la défense du territoire Mapuche. Ensuite, on a, alors là, côté Brésil, là, plutôt spectacle, avec la troupe Roda Favela. Donc ça sera le 10 novembre à 20h à l'avant-scène à Saint-Égrève. Et ensuite, on aura plutôt sur la deuxième partie du mois, Une conférence débat, l'agroécologie et la souveraineté alimentaire à Cuba. Ça sera le 22 novembre à 19h à la maison des habitants Tesser Malherbe. Et on aura aussi... Voilà, une journée qui s'appelle Nuestra America à la Maison des Associations de Grenoble le vendredi 1er décembre à partir de 18h30. Donc il y aura deux thèmes, une conférence sur le thème révolution et contre-révolution en Amérique latine. Et ensuite, un débat sur l'actualité des bouleversements politiques en Amérique latine. Voilà. Et puis alors, pour la partie africaine, donc on aura la Batukavi qui sera à l'inauguration du festival, du Festisol du 18 novembre à 14h. Ils feront aussi une soirée autour du centre Batukawaga qui a été créé il y a 10 ans avec la Batukavi de la Villeneuve. Et donc le lancement d'une opération Centre Batukawaga pour construire un centre artistique et artisanal là-bas. Donc ça sera donc le samedi 2 décembre à 20h à la salle polyvalente des Baladins à Grenoble. On aura une soirée sénégalaise le vendredi 1er décembre à 19h avec un repas et un concert. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour l'Afrique.
Conférence droit et liberté au Maghreb et au Moyen-Orient depuis 2009. C'est une conférence débat qui aura lieu le samedi 25 novembre à la Maison du Tourisme à Grenoble. Et je crois qu'on a fait le tour du monde. Ah non, j'ai oublié, le plus près, Grenoble.
Très important.
Les jardins collectifs pratiques d'agriculture urbaine proposés par l'association Bran Grelinette.
Et du coup, le... L'accès à la culture est quand même bien au centre du festival. Je vais rebondir sur Bouquins sans frontières.
Effectivement, oui. Donc, nous avons une action où on avait aussi l'année dernière. On intervient aussi au niveau de l'éducation à la citoyenneté. Et donc, on reçoit pas mal d'écoles à notre association, de telle façon de faire comprendre cette culture et donner le goût de la lecture. Et aussi, on fait partie d'un autre projet assez important, Cosmopolites, qui est un projet avec 6 autres associations que nous avons dans le pôle de solidarité internationale et qui est ce développement de la solidarité et aussi de la mixité sociale. Et on voudrait que ça soit un peu un centre un peu où les gens trouvent des ressources et viennent nous consulter. Voilà.
Comment arrivez-vous à mesurer l'impact de vos actions ?
On a quand même des retours, à peu près on voit par rapport que ça peut toucher à peu près, on avait plus de 2000 personnes qui sont touchées par effectivement, déjà il y a le nombre d'adhérents qui a plus que doublé, et après il faut dire que la librairie c'est non seulement un lieu où on va chercher une lecture, mais aussi c'est un lieu où on va vouloir faire des échanges, donc ça c'est aussi important parce que les gens vont vouloir échanger ou avoir aussi d'autres peut-être auteurs de vouloir donner leurs idées et puis de communiquer aussi ce qu'ils ont ressenti. Il faut dire que le livre c'est un peu le rêve et ça permet un peu de s'évader.
Et puis ça aide à l'apprentissage de la langue qui peut être un facteur d'intégration.
Oui, aussi, oui. En fait, nous recevons pas mal, quelquefois aussi des étudiants qui sont, on est avec la PARDAP aussi, et qui est des migrants. Et pour eux, c'est aussi un lien de communication où on peut les aider parce que, quelquefois, le vendredi, quand on a un peu le temps, on fait des dictées. Voilà. Donc, on essaye d'éduquer et de les aider dans ces lectures.
Et donc, en parlant d'immigration, est-ce qu'on peut parler. Du projet de loi immigration qui est en passe d'être discutée.
Oui, la Blandine a presque fait la transition en parlant de la PARDAP, parce que donc association de parrainage républicain de demandeurs d'asile et de protection, qui est un des gros moteurs du collectif Migrants en Isère, qui regroupe 22 associations de l'agglomération grenobloise, donc essentiellement des associations locales, des collectifs d'accueil, l'association Trois Amis qui fait énormément pour la formation des personnes, l'association Cuisine sans frontières qui cuisine avec des migrantes et réfugiés et qui prépare aussi des CAP de cuisine, qui vient de sortir d'ailleurs un livre de recettes. Ensuite, on a des associations nationales spécialisées dans le droit des migrants comme la CIMAD ou nationales mais plus caritatives comme le Secours catholique ou le Diaconat protestant et leur collectif d'hébergement qui font partie aussi du collectif Migrants en Isère. Et puis il y a deux associations internationales, donc moi je représente Amnesty International au collectif Migrants en Isère et l'association Humacop Amel France, donc qui est la fusion d'une association humanitaire française Humacop et de l'association Amel, qui est la plus grosse ONG libanaise, au Liban, et qui travaille aussi dans l'humanitaire. Voilà, donc... effectivement, pour parler du projet de loi pour... qui est annoncé déjà depuis plus d'un an, hein, puisque ça date de l'automne 2022. Donc nous, on avait fait partie des collectifs et des associations qui ont demandé à ce qu'il y ait une convention citoyenne sur la migration, mais qui n'a malheureusement pas abouti. On est arrivé à peu près à 50 000 signatures. Et il en faut 150 000 pour que le CESE puisse ouvrir une convention, pour essayer d'avoir un débat apaisé sur la situation des personnes immigrées exilées qui sont arrivées en France. Que dire ?
Pour être un peu concret, quels sont les principaux points qui peuvent être problématiques, selon vous ?
Tout est problématique. Enfin, là où il y a le plus de menaces, je dirais, c'est sur la demande d'asile. Là, il y a une mesure positive, mais qui va sans doute ne pas être adoptée. C'était que les personnes qui déposent une demande d'asile puissent travailler, avoir droit au travail dès leur arrivée sur le sol français. Donc ça, visiblement, ça n'en prend pas le chemin. Sur les recours en cas de refus à l'Office français des réfugiés apatrides lors de leur demande, normalement, ils vont en recours à la Cour nationale du droit d'asile. Et il y a toujours, pour l'instant, trois juges. Sauf pour les personnes qui sont en procédure accélérée, parce que c'est assez complexe au niveau des procédures, des différentes procédures. Mais il y avait trois juges qui permettaient d'avoir des regards différents, dont un représentant du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et ça, c'est quand même spécifique à la France. Et donc là, c'est la généralisation du juge unique qui va venir. Et un troisième point, c'est la régionalisation des officiers de l'OFPRA ou éventuellement même de la Cour nationale du droit d'asile. Aujourd'hui, ce sont quand même des personnes qui sont formées et spécifiquement sur les problématiques de tel ou tel pays. Si c'est des personnes qui sont dans les préfectures, délocalisées dans des préfectures, avec la pression que peut mettre le ministère de l'Intérieur, et on craint beaucoup qu'il n'y ait plus cette autonomie et cette compétence. C'est aussi une perte de compétence parce qu'il y aura forcément moins de personnes en région et elles ne seront pas omniscientes, quoi. Elles ne connaîtront pas précisément la situation politique de tel ou tel pays. Et on a quand même une cinquantaine de nationalités, par exemple, de personnes exilées qui arrivent à Grenoble. Donc nous, on organise On va organiser deux événements avec le collectif Migrants en Isère, là, dans le cadre de la loi qui va arriver donc, au Sénat le 6 novembre. Et puis tout d'un coup, une accélération, parce qu'on nous promet que ça passera à l'Assemblée nationale après en décembre, avant Noël, pour être adopté. Pour que la loi soit adoptée avant la fin de l'année. Donc nous, on va prévoir le 27 novembre à 18h à la Maison des Associations, un rassemblement le plus large possible de toutes les associations qui existent sur Grenoble et qui sont plutôt éloignées de cette thématique-là, pour essayer de créer un rapport de force un peu différent. Et puis, le 18 décembre, en centre-ville, alors on espère à Félix Poula, pour l'instant, on n'a pas encore la confirmation, de faire, pour la Journée internationale des migrants, un événement plutôt festif avec musique africaine, danse, apéritif, show avec Cuisine sans frontières, et puis bon, des textes, des témoignages, peut-être une petite pièce de théâtre, enfin voilà.
Et au Festival, il y a un événement le samedi 18 novembre, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait, pour que vous puissiez nous rencontrer tous et toutes, et pour que vous puissiez discuter de toutes ces thématiques, et notamment de ce dont vient de parler Anne sur le droit des réfugiés, Blandine, sur l'accès à la culture, sur l'humanitaire et son devenir auprès de femmes d'Himalaya, par exemple, ou la situation en Amérique du Sud. Nous proposons une journée d'inauguration qui se tiendra de 14h à 22h à la Maison des habitants de Tesserre-Malherbe. Alors la journée est organisée ainsi, il y a des stands par association. Il y a des propositions d'ateliers, tout est gratuit à l'exception du repas. Donc à 14h, il y aura un spectacle proposé par la Batoukavi devant la Maison des habitants. Ensuite, il y aura des ateliers de création de bracelets de l'amitié, d'éducation aux droits humains, un atelier Recycle Art par Bouquins sans frontières ou d'Iris Folding, toujours par Bouquins sans frontières. Il y aura l'inauguration de l'exposition de justice pour l'Ukraine dont vous a parlé Anne tout à l'heure. À 19h, un repas à 8 euros par personne. C'est un repas sud-américain cette année. Voilà. Et à partir de 21h, il y aura un concert avec Bala Moussa Bangoura. À partir de 21h, un concert afro-électro. Et c'est gratuit. Et c'est ouvert à tous. Donc voilà, on espère que vous aurez la curiosité de venir nous rencontrer et de venir partager ces moments-là avec nous une demi-heure ou toute la journée. Nous serons ravis de vous accueillir. Et ça sera le temps fort pour connaître tout le programme.
Je pense que c'est une belle conclusion à cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci aussi.
Merci à vous.
Merci beaucoup. On va se quitter sur une musique de Bala Moussa Sango.
L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.